Première épître de Jean, chapitre 1er, verset 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Donc, dans sa première épître, l'apôtre Jean parle en tant que témoin de Jésus-Christ. Il parle, bien sûr, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, et nous savons bien qu'il ne parle pas d'une religion ou de rite religieux. Il parle d'une personne, il parle du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la parole faite chair, venue révéler l'amour de Dieu au monde perdu, l'amour ineffable du Dieu vivant et vrai. Il est certain que celui que Jean a vu de ses yeux naturels et que ses mains ont touché, il nous appartient, nous, aujourd'hui, de le voir, de le contempler par la foi, de le toucher par la foi, quelque part, un peu comme cette femme à la perte de sang qui un jour a rassemblé les forces qu'elle avait pour venir toucher le vêtement de Jésus. Amen. Et elle a reçu la guérison, la bénédiction. Nous ne sommes pas nés chrétiens, nous le savons bien, nous le sommes devenus, non parce que nous avons trouvé la meilleure des religions, bien sûr, nous le sommes devenus par la foi en Jésus-Christ, à l'écoute de l'Évangile. Nous avons été convaincus de péché. Le Saint-Esprit nous a poussés à la repentance. Nous avons ouvert notre cœur, nous avons demandé pardon au Seigneur et nous avons fait une merveilleuse rencontre avec le Seigneur Jésus. Et moi, je me souviens de ce jour. Quelle joie, quelle paix dans mon cœur. Oh, comme c'était merveilleux, je n'avais jamais connu ça. Et je pense que vous aussi, vous avez fait cette expérience de conversion à Jésus-Christ. Vous avez été remplis de joie ce jour-là. Nous sommes appelés maintenant à marcher les yeux sur Jésus, la tête de notre foi, le chef de notre foi, celui qui veut l'accomplir, qui veut la mener à la perfection, à sa plénitude. Le Seigneur a plein d'ambitions pour nous. C'est dommage qu'on n'en ait pas toujours. Tellement dans le domaine spirituel, nous avons besoin d'ambition. Le Seigneur a de l'ambition pour nous. Il veut des jours meilleurs. Il nous veut meilleurs. Eh bien, le Seigneur veut porter notre foi, c'est vrai, à la plénitude. Hébreux 12, 2 nous dit, « Ayant les regards sur Jésus, le chef, la tête, et le consommateur de notre foi, qui ont vu de la joie qui lui était réservée à souffrir la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Alors, nous pourrions ce matin avoir quelques pensées. Hein, j'ai aucune prétention en la matière. Mais nous pourrions voir quelques pensées sur trois sommets, trois montagnes où on retrouve l'apôtre Jean. Hein. Voir ensemble aussi ce qu'il a vu, enfin, partie de ce qu'il a vu, quelques pensées. La première montagne, c'est celle de la transfiguration. Bon, on a parlé de beaucoup de choses, mais la parole de Dieu ne nous dit pas exactement où c'était, où il était question de l'Hermon, où il était question d'une tradition qui parlait du Tabor, enfin. On ne va pas rentrer dans ce sujet-là, mais on pourrait faire une lecture dans Luc chapitre 9, verset 27. Évangile de Luc, chapitre 9, et à partir du verset 27. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu, qu'il n'ait vu la souveraineté de Dieu. En environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le !» Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul, les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent rien à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. Et ils le racontaient, bien sûr, plus tard. Voilà 3 hommes qui ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Quand même, c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir vu Jésus transfiguré. Ça dépasse l'imagination, ça dépasse notre compréhension. Ils connaissaient Jésus, ils l'avaient entendu annoncer la parole, l'évangile, avec une grande autorité, ils l'avaient vu accomplir des miracles. Mais Jésus, quelque part, il était quand même quelqu'un qui leur ressemblait. Il n'était pas différent d'eux. Ils étaient admiratifs de ce compagnon de voyage, ce compagnon de pérégrination, mais avait-il pleinement conscience de cette divinité? C'est une bonne question qu'on peut se poser, mais là ils vont le voir métamorphosé, transformé, ils vont voir sa gloire. C'est un moment extraordinaire. Alors l'apparition de Moïse et Élie est un événement unique, bien sûr, pour Pierre, Jacques et Jean. Ils vont voir 2 hommes de foi. 2 hommes de foi. Ils les connaissaient, quelque part, ces hommes de foi. Mais ils les connaissaient que par les Écritures. Ils les avaient jamais vus dans la gloire. Mais ils vont les voir aussi, eux, dans la gloire. Des hommes qui étaient de la même nature qu'eux, bien sûr. Moïse et Élie, c'était des hommes de la même nature que nous, étaient de la même nature qu'eux, des hommes qui avaient, bien sûr, fait des expériences extraordinaires, mais qui avaient eu des découragements. Ils avaient eu des moments de découragement, Moïse et Élie, on va pas revenir dessus, mais des hommes qui étaient restés fidèles jusqu'au bout. Et ils avaient vécu, bien sûr, une fin particulière. C'est à Aaron et à Marie, les contestataires de la vocation, quelque part, de Moïse, que Dieu a dit, Nombre 12:8, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Il a connu, Moïse, une relation vraiment particulière avec Dieu. Et en ce qui concerne, bien sûr, Moïse, il représente la loi. Et nous remarquons que son corps n'a jamais été retrouvé. Il nous est dit dans Deutéronome 34:5, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. C'est Chouraki qui a fait une traduction littérale. Il a pu dire que Moïse était mort sur la bouche de l'Éternel. Alors certains sont même allés jusqu'à dire que Moïse est mort dans un baiser de l'Éternel. Mais l'amour a été si fort que Moïse est passé par la mort, et une mort particulière d'ailleurs, parce que C'est Jude qui lève le voile. Il nous dit que l'archange Michel a contesté avec le diable et lui a disputé le corps de Moïse. Or, Élie représente les prophètes. Il a été enlevé au ciel dans un char de feu. C'est quand même aussi des expériences extraordinaires qu'ont vécu ces hommes-là. On peut les admirer. On peut admirer Moïse quand même. Un homme qui a été d'une patience extraordinaire. Mais ils ont été efficaces, ils ont été courageux. Mais en tant qu'humains, nous ne sommes pas appelés à les admirer au-delà d'une certaine dimension. Hein, il ne s'agit pas pour nous de devenir des idolâtres. N'admirons pas les hommes plus que de raison. Celui qui est admirable au-dessus de tout, c'est le Seigneur Jésus. N'oublions pas. Alors on est bientôt à Noël. Vous vous rappelez bien sûr d'Ésaïe 9, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Amen. Il est admirable, ça veut dire que nous pouvons l'admirer. Il est bon pour nous de l'admirer chaque jour. Chaque jour de notre vie. Passer un temps à contempler notre Seigneur, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Merci Seigneur. Alors sur la montagne, le Père rend témoignage au Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez, Jean a entendu ses paroles. Il a entendu ses paroles. Alors écoutez-le, vous savez que ce n'est pas un aimable conseil. C'est l'ordre que le Père donne. Écoutez-le. Écoutez-le. Alors, il le donne, bien sûr, pas seulement à ses trois disciples, il nous le donne à nous ce matin. Hein? Cet ordre du Seigneur, de Dieu, vient jusqu'à nous. Écoutez-le. Jésus dira un jour à des Juifs récalcitrants, hein, c'est dans Jean 8, 47, « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. » Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Le verbe écouter ici a un sens d'écouter avec attention. Le sens de considérer pour comprendre quelque part dans le but final de mettre en pratique la parole de Dieu, la parole de notre Seigneur. Alors l'apôtre Pierre, lui il est dépassé bien sûr, on le serait à moins. Pierre ne savait plus ce qu'il disait, il savait plus ce qu'il fallait dire. Il pensait qu'il était déjà à la fête des tabernacles. Il parle de monter trois temps. Il faudrait que nous réfléchissions un petit peu simplement d'ailleurs sur la pensée de trois temps. Hein? Mais il est bon que nous soyons ici. Le Seigneur n'était pas venu, il était venu pour une mission. Il n'était pas venu pour rester sur la montagne. Il y avait un ministère, annoncer la grâce, offrir sa vie sur une croix pour les pécheurs, offrir sa vie pour chacun d'entre nous. Alors, c'est certain que dresser trois tentes, on peut se poser des questions. Il est bon pour nous chrétiens d'avoir toujours aussi cette vue que nous ne sommes pas appelés à rester sur la montagne, nous sommes appelés à vivre dans la vallée en tant que témoins de Jésus-Christ. Nous sommes, il faut que nous gardions en mémoire que nous sommes pèlerins et voyageurs ici-bas, que nous sommes chargés de mission par le Seigneur pour être les témoins de Jésus, que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais que nous appartenons à celui qui nous a rachetés. Et il l'a fait au prix de son sang. Hein, Romains 14 nous dit « Car si nous vivons pour le Seigneur. » Amen. Nous vivons pour le Seigneur. Est-ce que nous vivons pour le Seigneur, vraiment? Quelquefois, on l'oublie, on vit vraiment pour soi. Que le Seigneur nous aide quand même à avoir toujours cette vision. Nous sommes appelés à vivre pour le Seigneur. Et tout ce que nous avons, c'est à lui. Même nos enfants. Même ce qui est le plus cher, ce que nous avons le plus cher, c'est d'abord à lui. Ayons cette vision que le Seigneur nous aide. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui nous a rachetés au prix de son sang. Une tente pour chacun. Ah, non, ça donne quand même à réfléchir. Dans la pensée biblique, ce sera en quelque sorte couper la parole de Dieu en rondelles. C'est moi l'expression. Moïse, c'est la loi, c'est aussi le Pentateuch, les cinq premiers livres de la Bible. Élie représente les prophètes, qui ont annoncé la venue, ou le prophète a annoncé la venue du libérateur. Et dans un certain sens, on ne peut pas séparer Moïse et Élie et Jésus-Christ. Remarquons ce qui s'est passé quand le Seigneur a rejoint les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Hein. Vous savez, tous ceux qu'on représente toujours, ils regardent le sol, ils ont les bras ballants, le dos rond. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures ce qui le concernait. Amen. Vous voyez le lien, quand même, il est là. Hein. Seigneur a expliqué à ses disciples découragés ce qui le concernait dans les Écritures. Le Nouveau Testament n'existait pas à l'époque. Il n'y avait que l'Ancien Testament, hein, bien sûr. Hein, le Seigneur a expliqué, bien sûr. Le Nouveau Testament n'existait pas quand Jésus est ressuscité, mais il n'existait pas quand l'Église a commencé son ministère. On ne peut pas séparer l'Ancien Testament du Nouveau Testament, ils sont liés ensemble. Pascal a pu dire Jésus que les deux testaments regardent, l'Ancien comme son attente, le Nouveau comme son modèle, tous deux comme leur centre. Et nous avons besoin de sonder les Écritures. Et quand nous lisons les Écritures, nous avons besoin de discerner le Fils de Dieu à travers les Écritures. Que le Seigneur nous aide. Et c'est par son esprit que le Seigneur peut faire ça. On peut lire des textes des centaines de fois, et puis quelquefois, la 101e fois, qu'est-ce qui se passe? Une lumière. Ça s'éclaire tout à coup. Le Saint-Esprit a mis le doigt sur quelque chose. C'est pour ça que nous avons besoin de toujours nous nourrir de la parole. On disait, c'est vrai que quand on a de l'âge, des fois on a lu tout un texte, puis à la fin on dit, mais qu'est-ce que j'ai lu? Mais la parole de Dieu, c'est une nourriture. Et elle fait son œuvre, elle passe dans nos cœurs, elle fait son œuvre en profondeur, même si notre mémoire, quelquefois, peut défaillir, bien sûr, on est humain. Et puis, quand on a de l'âge, on commence avoir la mémoire qui flanche un petit peu. Alors, il ne s'agit pas de dire « Nous, on est sous la grâce. Nous, on lit le Nouveau Testament, puis on s'arrête là. » C'est dresser un peu une tente pour isoler Moïse et Élie, bien sûr. Nous pourrions d'ailleurs nous attacher qu'au Nouveau Testament, mais n'oublions jamais que la parole de Dieu est un tout indissociable, inséparable, qui a beaucoup de richesses à découvrir dans l'Ancien Testament. C'est 1 Corinthiens 10 qui nous dit « Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme les entendus. » Bien sûr. Bien sûr, on trouve plein d'exemples, plein de choses qui nous enseignent. Alors, une tente pour chacun, on pourrait dire une chapelle pour chacun, c'est pas formidable. À notre époque, on a quelquefois le sentiment qu'il y a autant de religions que de personnes. Alors, quand on va sur Internet, là, on voit beaucoup de gens qui s'élèvent en docteur. C'est pas toujours terrible. Chacun fait sa petite tente et chacun y met sa petite croyance et ses faiblesses. Certains, comme les Galates en leur temps, étaient revenus à la loi. Moïse, oubliant que nous servons dans un esprit nouveau, et s'imaginant que nous sommes sauvés par les œuvres de la loi. Bon, la loi, elle est là, bien sûr, mais le Seigneur l'écrit dans nos cœurs, par son esprit. Amen. Et c'est là notre force. Amen. Il l'écrit dans nos cœurs, par son esprit. J'ai plus le droit ceci, j'ai plus le droit cela, c'est j'ai plus envie, car le Seigneur a fait de moi une nouvelle créature. Amen. Alors certains n'ont Dieu que pour David, mais Bien sûr, David, il y a des choses à tirer de son expérience, et de ses expériences bonnes ou mauvaises, bien évidemment. Mais dans la nouvelle alliance, l'homme selon le cœur de Dieu, croyez pas que c'est Jésus, c'est l'homme parfait, c'est l'homme nouveau. Amen. C'est lui, l'homme selon le cœur de Dieu, qui est venu s'offrir en sacrifice et accomplir les prophéties, qui a scellé la nouvelle alliance de son sang précieux. Les hommes religieux ont cherché, très souvent bien sûr, à enfermer Dieu dans leur tente, dans leur chapelle, dans leur église. Certains se sont crus meilleurs et détenteurs de la vérité. Ils ont pensé que tous les autres étaient complètement ignorants de tout. Et qu'ils étaient arrivés à la conclusion que tout s'était perdu, sauf eux. Mais je suis convaincu que nous avons besoin de rester humbles. Amen. Nous avons besoin de ressembler à Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans le texte, vous savez, ça parle de l'obéissance et de l'humilité. Soyons humbles. La parole de Dieu nous dit d'ailleurs que nous connaissons pas. Nous connaîtrons un jour comme nous avons été connus. Mais nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Soyons prudents dans nos jugements, nos balances intérieures ne sont pas toujours très justes. Nous avons besoin de les mettre, les régler sur la base du cycle du sanctuaire, comme les textes de l'Ancien Testament nous parlent lors de la construction du tabernacle, le cycle du sanctuaire. Nous avons besoin de mettre souvent nos balances à jour. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que nous sommes appelés à avaler toutes les couleuvres qui peuvent exister. Il est bon que nous ayons en nous les sentiments nobles qui étaient dans les Juifs de Béret, qui examinaient chaque jour dans les Écritures si ce qu'on leur disait était exact. Nous ne sommes pas non plus appelés à aller avec certains idolâtres, c'est sûr, comme en son temps Salomon. Salomon était entraîné par ses épouses. Et pourtant, vous vous rendez compte, avec la sagesse qu'il avait, moi, je ne sais pas, moi, ça donne à réfléchir. Hein. Ça donne à réfléchir. Il est tombé, en quelque sorte, dans l'idolâtrie. Ça fait réfléchir. Une tente pour chacun. Une tente, c'est un espace limité. Hein. Vous serez d'accord avec moi, ce n'est pas très grand, une tente, en général. Enfin, il y en a des grandes, mais les tentes individuelles, c'est petit, ils représentent peut-être aussi un peu ce qu'on connaît, ce qu'on sait, ce qu'on a appris. Et nous ne réalisons, nous n'acceptons, disons, pas toujours très facilement quand quelque chose vient bouleverser cette petite connaissance-là que nous avons. Hein, nous avons besoin d'être ouverts à l'œuvre du Seigneur, tout en vérifiant dans la parole de Dieu si ce qu'on nous dit est exact. Nous avons besoin d'être ouverts. Quelque chose qui va bouleverser notre compréhension, notre connaissance, quelquefois on veut le rejeter. Mais attention, examinons dans les Écritures. Examinons d'abord dans les Écritures si c'est exact. Vous savez que le psaume 50, par exemple, on trouve la condamnation du légalisme, du formalisme. « Quoi donc, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui es les avis et qui jette mes paroles derrière toi. » Nous avons besoin d'être ouverts et de grandir dans la connaissance du Seigneur. En pensant isoler le Seigneur sous une tente, on peut s'imaginer aussi que l'on peut faire tout ce qui nous plaît. Bah oui, oh Dieu est tellement amour, que d'amour, il nous aime, alors bon, il est conciliant avec le péché, eh bien pas du tout. Je crois que ce serait une erreur que de le penser, notre Dieu est parfait, il est parfait dans son amour, il est parfait dans sa justice, il est parfait dans sa sainteté, il est parfait dans toutes ses voies, notre Dieu. Considérer que Dieu est conciliant avec le péché, c'est quand même dommage. Oh, il y en a tellement qui font pire que moi. Ouf, je suis pas si mal que ça. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Moi, je pense qu'avant, quelquefois, de venir adorer le Seigneur, nous avons besoin de nous humilier. demander, Seigneur, pardon. Parce que j'ai le sentiment de ne pas être vraiment parfait, mais Seigneur, ce qu'il apprécie, c'est la louange d'un cœur pur. Que le Seigneur nous fasse grâce. Jésus, c'est vrai, il est venu, non, pour. Il est venu accomplir la loi. Mais pas pour rester sur la montagne dans une tente, il est venu pour gravir le Golgotha. Il est venu pour se donner, s'offrir en sacrifice pour chacun d'entre nous. Alors la seconde montagne, mont, c'est le mont Golgotha, nous y retrouvons l'apôtre Jean. Les autres, on ne sait pas où ils sont partis, mais lui, l'apôtre Jean, il est là, il va voir la crucifixion de Jésus, il va voir ce qui va se passer. L'apôtre va plus voir Jésus transfiguré, il va le voir défiguré par la souffrance. Il va voir sa tête couronnée d'épines. Il va voir ses mains et ses pieds cloués sur une croix par d'horribles clous. Ses vêtements lui ont été enlevés. Les Romains tirent au sort sa tunique. L'apôtre Jean va voir ça. Son maître qu'il aimait tant, qu'il aime tant. Là, les hommes rebelles, ils ont placé le juste, le parfait, au plus bas niveau de la société, au niveau des criminels et des malfaiteurs. Jésus s'est humilié jusque-là, jusqu'au plus bas, pour sauver le plus bas, pour sauver le plus bas des hommes. Jésus, plein de sollicitude, malgré la souffrance, va parler à sa mère et à Jean. À sa mère, il dit « Voici ton fils » et à Jean « Voilà ta mère » jusqu'au bout. Jésus accomplit la loi. « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement, avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Sur le Golgotha, l'apôtre Jean n'entendra pas la voix du père, mais seulement du fils. « Eli, Eli lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne dit pas mon père, là il parle en tant que fils de l'homme. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est chargé d'un poids énorme, d'un poids incommensurable, des péchés du monde. Il est fait pécher pour nous. Et à cet instant, le Dieu parfait va détourner son visage. Il ne faudrait jamais avoir péché pour nier notre implication dans la mort de Jésus. Il ne faudrait jamais avoir péché pour nier notre implication dans la mort de Jésus à Golgotha. Devant le prix qui a été payé, puissions-nous réaliser chaque jour davantage le dégoût, puissions-nous avoir chaque jour davantage le dégoût du péché, nous, et réaliser chaque jour davantage l'horreur qu'il représente aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de péché véniel, le péché conduit à la mort, il a conduit Jésus à la croix. Il a conduit Jésus à la croix. Dans son amour, le Seigneur s'est donné pour nous. J'entendrai ces paroles. Tout est accompli. Les paroles de victoire, cri de victoire du crucifié. Ce ne serait ensuite qu'il pourra dire « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Jésus ne dit plus « Mon Dieu ». Il parle à nouveau en tant que « Fils ». Le sacrifice est accompli. Il a accompli sa mission ici-bas, il va se présenter devant son Père avec son sang en tant que seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il va se présenter avec son sang en tant que grand souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Alors mon frère, ma sœur, si l'adversaire vient te rappeler une de tes faiblesses passées, arrive ça. Remettre à ton souvenir un péché pour lequel tu t'es humilié et pour lequel tu as reçu le pardon du Seigneur. Eh bien, résiste-lui avec une foi ferme. Prends une position de foi. Ton passé de pécheur n'existe plus. Ton passé de pécheur n'existe plus. Il a été effacé par le sang de Jésus. Amen. Enfin, on retrouve Jean sur la montagne de l'Ascension, en Galilée. L'Évangile ne parle pas non plus du lieu exact, mais Jésus ressuscité apparaît sur la montagne où il avait donné rendez-vous à ses disciples. C'est le moment de la séparation. Il va leur confirmer sa puissance. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il va leur promettre la survenue du Saint-Esprit sur eux, l'esprit de puissance, l'esprit de force pour leur service de témoin. Il va leur donner leur ordre de mission, aller faire de toutes les nations des disciples. Il va leur promettre sa présence. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais ça ne nous dit pas qu'aux disciples, ne dit pas qu'à Jean. Il nous dit à nous. Il nous dit à nous. Hein? Bien sûr, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jour après jour. Les mains de percées, les mains percées de Jésus déversent sur les siens les bénédictions de sa victoire. Jour après jour. Il est fidèle. Enfin, les anges vont annoncer son retour, ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, il nous est dit dans 1 Thessaloniciens 4,16, je vais terminer, hein, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et mort en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Remarquons la place de la nuée, hein, sur la montagne de la Transfiguration. Elle est descendue. Hein, quand Jésus est parti, elle était là, la nuée. Et quand il revient, elle est là, la nuée. Elle était déjà avec Israël. Vous savez, quand le peuple a sorti avec l'armée de Pharaon derrière eux, la nuée s'est mise entre deux. Amen. Hein, cette pensée de protection dans cette nuée. Et nous remarquons dans Apocalypse 1,7, « Voici, il vient sur les nuées. » Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront contre lui. Jésus revient bientôt. Soyons vigilants.